On attaque à présent les 10 minutes de neurosciences.
Alors, aujourd'hui, Cyrielle, nous en avons terminé avec l'histoire des neurosciences, ce qui nous a permis, en fait, de savoir un peu pourquoi nous en étions là aujourd'hui. Et maintenant, nous allons aborder différents sujets dans les neurosciences, avec aujourd'hui le thème de notre cerveau, notamment du cortex, et de notre système nerveux.
Pouvez-vous nous parler un petit peu de ce système nerveux ?
Absolument. Alors, je vais vous présenter de manière succincte le système nerveux chez les mammifères, puisque nous sommes des mammifères. On va dire qu'il y a deux grandes parties au système nerveux. Il y a le système nerveux central, qui lui comporte en fait le cerveau, le cervelet, le tronc cérébral et la moelle épinière. Donc on va dire que c'est le cerveau. Et puis nous avons le système nerveux périphérique, ce qu'on appelle aussi l'SNP, qui contient en fait les ganglions et les nerfs qui sont à l'extérieur du système nerveux central. Dans ce système nerveux périphérique, nous avons deux parties, le système nerveux somatique et le système nerveux autonome. Alors le système nerveux somatique, c'est l'ensemble des nerfs qui innervent la peau, les articulations, les muscles associés à la commande volontaire. Donc le système nerveux somatique, c'est cet ensemble de nerfs. Ça permet effectivement la perception des stimuli externes via des récepteurs mécaniques ou de la douleur par exemple. Bien sûr, ce système possède des fibres efférentes, responsables de la contraction musculaire, et des fibres afférentes. Donc efférentes et afférentes. Efférentes, c'est celles qui donnent l'information, afférentes, c'est celles qui reçoivent l'information. Ça, c'est notre système nerveux somatique. La deuxième partie de notre système nerveux périphérique, c'est le fameux système nerveux autonome, qui lui est particulier parce qu'il est subdivisé lui aussi en deux parties. Nous avons le système nerveux autonome parasympathique et le système nerveux autonome sympathique. Alors, sympathique, c'est pas parce qu'il est plus sympathique que l'autre, hein. Mais en gros, nous avons ces deux systèmes-là. Et le parasympathique, c'est en fait celui qui va ralentir les fonctions physiologiques de notre corps pour l'économiser. C'est aussi celui qui va libérer un neurotransmetteur qu'on appelle l'acétylcholine pour ralentir, entre autres, le rythme cardiaque. Donc on va dire que le parasympathique sert en fait à calmer, à réduire, à ralentir. Que le système nerveux autonome sympathique, lui, il va plutôt préparer à l'exercice physique, au travail intellectuel, il va préparer au stress, à l'urgence. Donc c'est lui qui va vraiment nous mettre en condition pour pouvoir réagir. Donc ça, c'est très important de comprendre que le parasympathique ralentit les fonctions et le sympathique va plutôt les accélérer et les préparer. Et c'est l'équilibre entre le système nerveux autonome parasympathique et le système nerveux autonome sympathique qui va créer ce qu'on appelle le maintien de l'homéostasie. L'homéostasie, au fond, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre dans notre corps, c'est l'équilibre de notre rythme cardiaque, c'est ce qui permet de ralentir le cœur ou de l'augmenter en fonction de nos besoins. Donc, c'est de maintenir cet équilibre. L'homéostasie, c'est l'équilibre. Et donc, ces deux systèmes sont très importants pour réguler effectivement un ensemble de choses et pour agir au moment où on en a besoin.
Parlons maintenant du cerveau.
Alors, le cerveau, évidemment, la machine exceptionnelle, celle que l'on définit aujourd'hui comme étant celle qui se trouve dans notre boîte crânienne, nous pourrons un jour y revenir parce qu'il y a pas mal de choses qu'on dit aujourd'hui au niveau du cerveau. On parle du deuxième cerveau, on dit que le deuxième cerveau, qui est en fait la paroi intestinale, serait peut-être même un jour le premier cerveau. Enfin bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais n'y venons pas pour l'instant, considérons que le cerveau, pour l'instant, c'est ce que nous avons dans la boîte crânienne. Alors, quelles sont les contraintes, finalement, de ce cerveau ? D'abord, ce cerveau est extrêmement fragile. C'est pour ça qu'il est enfermé, en fait, dans une cavité, une structure osseuse inextensible, pour le protéger. Et il faut savoir que le cerveau, en fait, en tant que tel, n'a pas de protection contre les infections, ni le système lymphatique. Ça veut dire que c'est quand même quelque chose d'assez fragile, qui peut mécaniquement être blessé si la boîte crânienne était touchée, et qui est aussi sujet à des infections. On verra un petit peu comment notre corps fonctionne pour nous protéger un peu de cela. On peut dire aussi que ce cerveau, finalement, si on regarde à quoi ressemble ce cerveau, il est tout plissé. Vous avez un ensemble de plis, alors, c'est pas très joli finalement, mais pourquoi y a-t-il ces plis ? Eh bien, en fait, c'est parce que simplement les lobes de notre cerveau ne peuvent pas être lisses, parce qu'en fait, la structure de notre cerveau est beaucoup plus importante que celles qui pourraient être contenues dans la boîte crânienne. Et le fait qu'il y ait ces plis au niveau des lobes, ça démontre simplement le développement de ce cerveau. Si on pouvait déplisser et déplier complètement le cerveau, il serait beaucoup plus important que ce qu'on arrive à mettre dans la boîte crânienne. Et c'est pour ça que ces petits plis de ces lobes, en fait, indiquent que la surface du cortex est beaucoup plus importante réellement que ce qui est contenu dans la boîte crânienne.
Je voudrais revenir un petit peu sur la forme de ce cerveau. Ma question, ce serait, entre êtres humains, est-ce que la forme de notre cerveau est différente entre différentes personnes ? Ou en soi, elle est totalement similaire ?
Alors, elle est totalement similaire. On en revient à deux éléments importants. On en revient à ce fameux neuromythe qui était de considérer que le cerveau de la femme, par exemple, n'était pas le même que celui de l'homme, alors qu'en fait, il est tout à fait identique à quelques grammes près. Simplement, le cerveau de la femme a une logique hormonale qui est différente, mais au niveau physiologique, on a le même cerveau. Donc, oui, tout le monde a le même cerveau. Et deuxième élément, ça rappelle, si vous vous souvenez, Cyrielle, lorsqu'on a parlé de l'histoire des neurosciences, on a parlé à un moment donné de la phrénologie.
Oui.
Et la phrénologie, c'était cette idée qui consistait à dire qu'au fond, la forme de la boîte crânienne pouvait indiquer, au fond, telle capacité ou telle difficulté ou telle déficience. De là, souvenez-vous, on en avait gardé ce mot que tout le monde connaît, avoir par exemple la bosse des maths, c'était avoir en fait un cerveau plus proéminent. Et le cerveau, en tout cas la partie préfrontale du cortex, ou celle qui est devant, quand elle est plus développée, on disait oui, il a un cerveau plus développé, donc il est certainement meilleur en maths. Alors ça ne veut strictement rien dire. Un cortex, la partie du lobe préfrontal, est effectivement le dernier lobe qui a été développé par l'homme. Hein. Donc c'est notre dernière partie du cerveau qui a été développée. Et cette partie-là contient un tas d'éléments très importants, comme la socialisation, l'empathie et un ensemble de choses que nous reverrons, bien entendu. Mais la phrénologie a été largement démenti depuis très longtemps. Donc, quelque part, les cerveaux sont tous identiques.
Et donc, il y a une barrière qui protège le cerveau du contact avec le SNC. C'est bien ça ?
Oui. Et alors, il y a une barrière, alors qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Alors, cette barrière, en fait, est intéressante. Elle protège, effectivement, le système central de la circulation sanguine. Ça empêche les molécules toxiques ou les agents pathogènes d'entrer dans le cerveau et la moelle épinière, puisqu'on a vraiment quelque chose de fragile. Ça protège bien sûr les cellules cérébrales contre les variations de concentration des hormones ou des neurotransmetteurs et contre des modifications de pH, notamment du sang. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que cette barrière hémato-encéphalique ne protège pas de tout, et notamment de certaines substances toxiques, comme la nicotine, l'alcool ou certaines drogues, l'oxygène notamment, mais enfin l'oxygène il en faut, mais la nicotine et l'alcool donc passent au niveau du cerveau. Or ce sont des toxines, donc la barrière hémato-encéphalique ne protège pas de tout, et c'est donc ça le problème. Et le pendant de cela, c'est que lorsque on veut utiliser des médicaments, lorsqu'on veut avoir un traitement spécifique au niveau du cerveau, il y a certaines protéines et certains antibiotiques qui sont bloqués, qui sont empêchés d'entrer par cette barrière hémato-encéphalique, ce qui nécessite un traitement pharmacologique particulier. D'accord ?
Très bien, on a parlé donc du système nerveux, on a parlé du cerveau, on peut faire maintenant un petit point sur le cortex.
On va faire un petit point sur le cortex. Je voulais juste, au niveau du cortex, déjà indiquer que le cortex lui-même ne ressent pas la douleur. Il n'y a pas de douleur au niveau du cerveau en tant que tel. La douleur que l'on peut ressentir, on la ressent au travers des méninges. Alors c'est quoi les méninges ? C'est au fond la partie qui se trouve au-dessus du cortex et dans la boîte crânienne. Donc vous avez l'os crânien, et puis vous avez toute la partie des méninges, et puis vous avez le cortex à l'intérieur. Et c'est en fait la pression qui est faite sur ces méninges qui peut transmettre des informations de douleur. Alors, rapidement, les méninges, il y a ce qu'on appelle la pimère, qui est en contact avec le cerveau, puis vous avez le liquide céphalo-rachidien, une membrane qui s'appelle la membrane arachnoïdienne, et puis vous avez la duramère. La duramère qui, elle, est en contact avec l'os crânien. Donc ce sont bien ces parties de méninges qui peuvent, d'abord qui font circuler des informations, mais qui aussi peuvent transmettre par compression la douleur. Le mal de crâne, c'est pas un mal au cerveau. Hein, d'accord ? Voilà. Alors concernant le cerveau lui-même, on va dire qu'il y a quatre lobes. On a le lobe frontal, le lobe occipital, le lobe temporal et le lobe pariétal. Et chaque lobe, en fait, comprend une multitude de régions cérébrales. Et ce sont ces régions, en fait, qui permettent à notre corps de fonctionner. Ce qui est important de comprendre, Cyrielle, c'est qu'une même fonction du cerveau peut employer des neurones de différentes régions du cerveau en même temps. C'est d'ailleurs ça qui en fait toute sa complexité et qui fait aussi la difficulté de soigner certaines choses. Actuellement, nous avons plus de 200 aires du cerveau qui ont été identifiées.
Est-ce que vous pouvez, Jean-François, nous donner un petit exemple de cette régionalisation du cerveau ?
Tout à fait. On va prendre comme exemple la vision. Prenons la vision. Dans le cerveau, il y a l'aire numéro 17, qui est en fait une aire sensorielle primaire. Et cette aire, elle est située dans le lobe occipital. Alors le lobe occipital, en fait, c'est celui qui est derrière la tête. Hein. C'est celui qui est situé ici derrière. Et donc, c'est l'aire sensorielle primaire. Déjà, c'est intéressant d'imaginer que l'aire sensorielle primaire se trouve derrière la tête et que notre organe sensoriel de vision, ce sont nos yeux. Ils sont devant.
Tout à fait à l'inverse, en fait.
Tout à fait à l'inverse. On aurait pu dire que, finalement, dans le lobe frontal, on aurait pu trouver, donc devant au niveau du front, on aurait pu trouver les informations visuelles. Eh bien non, elles se trouvent déjà dans ce qu'on appelle l'aire numéro 17, qui est l'aire du cortex visuel primaire. Cette aire-là est très importante. Mais elle est associée à deux autres aires, qui est l'aire numéro 5 et l'aire numéro 7, qui sont situées dans le lobe pariétal. Alors, le lobe pariétal, en fait, il est au-dessus. Il est un peu plus loin que le lobe, je dirais, frontal. Il est juste ici derrière. Donc ce lobe pariétal est un lobe qui permet, par l'aire numéro 5 et l'aire numéro 7, de faire de la coordination visio-perceptive, c'est-à-dire de la localisation dans l'espace, c'est-à-dire aussi de gérer certaines tâches de préhension. Donc une même fonction va mobiliser plusieurs aires différentes du cerveau qui sont situées à différents endroits.